Gloire à Dieu. Je donne gloire à Jésus ce matin. Et en glorifiant Jésus, le Saint-Esprit m'amène aussi à cette réalité de glorifier Dieu le Père. Amen. Glorifier Dieu parce que nous savons que Dieu notre Père, il siège au milieu de louanges de son peuple, de ses enfants, de ses rachetés. Et je dirais même que dans la glorification qui doit lui être apportée, nous sommes exactement sur le terrain qui découle non seulement du salut, mais une réalité spirituelle dans laquelle Dieu nous a introduites, dont le Saint-Esprit fait mention dans l'expression que l'apôtre emploie dans l'épître aux Éphésiens, après qu'il eut mentionné cette nécessité de glorifier Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, le Saint-Esprit va s'évertuer à prendre une expression, frères et sœurs en Christ, pour accompagner les pensées qu'il veut exposer, et il va employer l'expression « en lui ». Et si nous comptons le nombre de fois dans Éphésiens 5:1 où l'expression « en lui » est mentionnée, eh bien nous trouverons le chiffre 5. 5 fois, il mentionne l'expression « en lui ». Mais à un moment donné, il va montrer l'un des aspects des bénédictions spirituelles dont nous sommes des objets de la part de Dieu en Jésus-Christ. Il va dire que non seulement Dieu nous a fait rentrer dans ce plan de salut, mais il va expliquer ce qui va découler du salut afin que nous servions à la louange de la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et si nous simplifions cette expression, nous arriverions certainement à cela. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Et ce matin, nous sommes là pour le servir. Et dans l'aspect de ce service, ce que Dieu attend de nous, c'est ce que l'apôtre, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, mentionne, je crois, si je me trompe pas, dans 1 Corinthiens 6:19, lorsqu'il dit que Dieu nous a rachetés à un grand prix, et après il mentionne « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ». Donc cela veut dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu habiter nos cœurs, dans le plan de Dieu, il va constamment agir pour que nous, comme enfants de Dieu, eh bien nous puissions non seulement servir à la louange de la gloire de sa grâce, mais que le Saint-Esprit nous pousse toujours à glorifier Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et nous sommes là ce matin, frères et sœurs en Christ, pour que non seulement Dieu soit glorifié dans nos vies, mais que nous-mêmes nous puissions le glorifier. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes venus ce matin? C'est l'un des principes fondamentaux du culte qui lui est rendu. Alors nous allons maintenant, frères et sœurs en Christ, considérer pendant quelques minutes les Saintes Écritures. Et au travers de ce partage de ce matin, comme j'aime à le répéter, d'après la direction donnée par le Saint-Esprit, eh bien nous ferons une lecture dans le livre du Deutéronome. Et nous allons regarder dans Deutéronome, je donne la référence, soyez pas impatients. Deutéronome, le chapitre 33. Et nous regarderons à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, ce qui va servir d'entrée en matière à ce que Dieu veut nous donner ce matin. Il se pourrait que ce sujet, ce matin, nous puissions en faire ce que j'appellerais une ébauche. Donc, si c'est une ébauche, cela signifie que certainement nous allons être amenés à y revenir. Mais avant d'y revenir, on peut toujours commencer. N'est-ce pas? On va commencer et nous allons lire à partir du verset 13 de Deutéronome 33 ce qui est écrit.
Tout le monde est à la bonne page. Faisons lecture alors. Sur Joseph, il dit. Donc nous sommes sur le terrain des bénédictions par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Donc, c'est un moment particulier. Moïse va maintenant terminer avec la vie terrestre, mais le Seigneur l'utilise et voici ce qui est laissé de la part de Dieu. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel, dites avec moi, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée. Dans les Saintes Écritures, frères et sœurs en Christ, avant d'aller plus loin, la rosée peut symboliser ou symbolise, ça dépend du moment où il est employé, la grâce de Dieu. La pluie, non pas de la bénédiction, entre autres, mais la rosée, non pas de la grâce de Dieu. Continuons. Le meilleur don du ciel, la rosée. Et nous sommes conduits obligatoirement à considérer cette rosée, d'après l'énoncé de l'Écriture, comme un. Il y a cinq qui disent comme un don. Alors, où sont les autres, alors? Il suffit que nous lisions l'Écriture. Je viens de vous dire que, d'après ce que dit l'Écriture. Alors, qu'est-ce que l'Écriture dit? La rosée comme un don du ciel. Donc, nous sommes bien sur le terrain spirituel de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Les meilleures eaux d'en bas, qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, alléluia, les meilleurs fruits de chaque mois, encore, les meilleurs produits des antiques montagnes. Ah, nous sommes sur le terrain d'avant la création, antiques montagnes. Gloire à Dieu. On continue. Les meilleurs produits des collines séculaires, éternelles. Pardon? Les meilleurs produits des collines séculaires. C'est ça, hein? Bien, j'ai entendu des remous, alors je pensais que je m'étais trompé. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui a paru dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Amen. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Et quand nous lisons cela, frères et sœurs en Christ, moi, je suis émerveillé de ce que, prophétiquement, le plan de Dieu est en marche et celui qui, désormais, est appelé à en être l'objet, il s'appelle Joseph. Gloire à Dieu. Puis, après avoir vu comment Moïse, homme de Dieu, a mentionné les bénédictions dont Joseph serait l'objet, regardez avec moi dans Genèse, le chapitre 49, à partir du verset 22. Et là, nous allons être sur un autre terrain. Ce sont les bénédictions des enfants d'Israël, mais que Joseph va mentionner, pas Joseph, Jacob, vous avez bien réagi, que Dieu soit béni. Regardez avec moi dans Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Donc, si l'arbre est fertile, ça veut dire qu'il est appelé à porter. Alléluia. Le rejeton d'un arbre fertile, mais placé près d'une source. Et parce qu'il en est ainsi, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Verset 25, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et voici encore le terrain des bénédictions qui sont mentionnées. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Et puis pour conclure, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Est-ce que vous dites amen? Alors quand nous lisons cela, quand moi je l'ai lu, mais le Saint-Esprit m'amène à considérer que quand, autant dans Deutéronome que dans Genèse, je lis ce qui est défini comme devant être la part, devant accompagner la vie de Joseph, eh bien nous aurions cette tendance, si nous voyons les choses à notre niveau sur un plan humain, nous aurons cette tendance à considérer que celui dont il est question, sa vie serait à définir, excusez-moi du terme, comme devant être ou comme étant, comme on le dit communément, mon frère José, un long fleuve tranquille. C'est ce qu'on pourrait penser quand de telles paroles sont dites sur la vie d'un homme, bénédiction d'en bas, la rosée, etc., avec... C'est beau, mais dans la réalité, sur le plan béni de Dieu, certes, cela prendra un aspect particulier, mais quand c'est Dieu qui a la main sur un homme, qui a un plan pour la vie d'un homme, certes, les bénédictions seront là, mais les épreuves aussi. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre, parce que l'un accompagne l'autre, et dans la réalité, l'apôtre en a parlé plus près de nous, dans Romains 8, 28. Nous savons du reste, dites avec moi, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et nous sommes de ceux-là ce matin. Donc, dans le processus divin, nous pourrions même regarder, frères et sœurs en Christ, une déclaration de quelqu'un qui a été richement béni de Dieu. Il s'appelait Salomon. Et dans Proverbes 10, 22, il fait cette déclaration, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'un des classiques évangéliques. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais il y a une version biblique qui traduit la seconde partie du verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et ce qu'on y ajoute ne sert de rien. Cela veut dire que quand Dieu bénit, dans sa bénédiction, il y a tout ce qui est compris. Et ce que l'homme pourrait vouloir ajouter ne servirait pas à grand-chose. Alors regardons un peu de plus près. Comment celui qui s'appelle Joseph, maintenant lors de sa naissance, Rachel, sa maman, va faire une double déclaration. Et cette double déclaration sur Joseph sera en quelque sorte le fil conducteur de tout le plan de Dieu pour sa vie. Cela se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 30. Et nous allons trouver cette déclaration à partir du verset 22. Vous allez remarquer que dans ce que nous partageons ce matin, je vous ai dit que ça ressemblerait fortement à une ébauche. Alors si c'est une ébauche, je vais aller à un rythme que me donne le Saint-Esprit. Pour que ce que Dieu veut que nous puissions partager, étape après étape, point par point, nous puissions le considérer et que cela soit pour chacun d'entre nous, eh bien, un apport spirituel conséquent pour pouvoir nous aider, nous fortifier, nous encourager, nous éclairer, nous soutenir, afin que par son esprit, Dieu nous donne à recevoir ce qu'il veut communiquer à chacun de ses enfants. Regardez avec moi dans Genèse, le chapitre 30 et au verset 22. Dieu se souvint de Rachel. La raison, c'est que Rachel était une femme stérile. De nombreuses années de stérilité. Et la Bible nous dit, et il l'exauça et la rendit féconde. Alors elle devint enceinte et enfanta un fils. Et voici la première déclaration. Lisez avec moi. Dieu a enlevé mon opprobre, c'est-à-dire la stérilité. Dieu a enlevé cette stérilité qui était mon partage depuis toutes ces années, stérilité qui m'avait introduit dans l'attente, l'attente qui m'amenait à la prière, prière qui s'accompagnait de supplications, et le temps passait et je ne voyais rien se faire. Eh bien, obligatoirement, quand le temps passait et que je ne vois rien se faire, ça peut m'amener au découragement. Ça peut même m'amener, si je considère cela comme une injustice, à une forme de rébellion à l'égard de Dieu. Mais ça, c'est moi qui le dis, hein. Parce que quelquefois, frères et sœurs en Christ, notre nature humaine, elle a certaines tendances à réagir selon notre caractère et nos sentiments et nos pensées. Mais continuons. Première déclaration, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph. Deuxième déclaration, disant que l'Éternel m'ajoute un fils. Un autre fils. Et l'autre fils viendra plus tard, la personne de Benjamin. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est au travers ce principe que toute l'éducation, la formation de Joseph va être conduite par la main de Dieu. Dieu enlève mon opprobre et il m'ajoute un fils. Savez-vous que ce principe-là était un principe applicable dans la vie de Jésus? Non? Vous le savez ou pas? Non, vous ne savez pas. Mais mon travail pastoral, c'est de vous l'expliquer. Regardez la prophétie d'Ésaïe 53. Je ne sais pas, simplement, comprenons dans la liste de ce qui est mentionné, vers la fin de la prophétie, le prophète déclare: sa vie a été retranchée de la terre. Donc Dieu enlève. Mais Dieu ajoute, il verra une postérité. Plus tard, dans Jean 12, Jésus va déclarer, alors que des Grecs sont montés à Jérusalem pour l'adorer, Philippe va le dire à André et Philippe vont le dire à Jésus, Et Jésus va profiter de cette occasion pour donner un peu cette image que je viens de mentionner. Concernant sa personne, il déclarera « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il parle de sa mort, de sa résurrection, mais du plan de Dieu qui, au travers de lui, a prévu d'attirer de milieux sociaux différents, de couleur de peau, d'ethnie, d'origine, des hommes, des femmes dont nous faisons partie ce matin, pour les rassembler dans un seul corps qui est appelé l'Église, l'Église que Jésus bâtit. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs en Christ, que ce même principe-là, c'est celui que Dieu va utiliser dans nos vies. Aujourd'hui, il y a des choses que Dieu doit enlever en moi pour pouvoir ajouter ce que lui a décidé d'ajouter. Oh, je ne suis pas toujours conscient. Pour moi, quelquefois, je me complais en moi-même, et bien j'estime que je suis arrivé à un certain degré de connaissance, de spiritualité, et si je ne veille pas, ça peut même friser l'orgueil. Mais Dieu ne considère pas les choses comme moi je les considère. Et laissez-moi vous dire que tout le temps de notre pèlerinage terrestre, tout le temps que Dieu nous laissera sur la terre, il y aura quelque chose à enlever en nous. Or, s'il a quelque chose à enlever en nous, c'est parce qu'il a quelque chose à ajouter. Encore faut-il que je me laisse, que je m'abandonne comme l'argile dans la main du potier. Et que je laisse le divin orfèvre qui sait comment travailler en moi pour atteindre le but qu'il s'est fixé, m'amener quelquefois comme la masse, à cet affinage ô combien important, il va consister à mettre le matériau dans le creuset ou dans le fourneau. Si c'est le creuset, c'est l'argent, si c'est le fourneau, c'est l'or, et de l'amener à une très haute température jusqu'à ce que ce matériel devienne liquide. Et que le liquide se mette en ébullition à faire ressortir les scories qui, malheureusement, si elles demeurent dans le métal, ne peuvent pas permettre, eh bien, à l'affineur de déclarer la pureté qu'il veut atteindre. Alors, quand Dieu nous met dans le fourneau, eh bien, l'épreuve, quelquefois, frères et sœurs en Christ, nous paraît injuste dans certaines considérations. L'apôtre Pierre parle même de la fournaise de l'épreuve. Quelquefois, dans la fournaise, c'est une chaleur insupportable, chaleur intolérable, chaleur, quelquefois, eh bien, que nous avons du mal à supporter, mais qui cependant, dans le plan de Dieu, est nécessaire et, sous un autre aspect, se définit comme étant obligatoire pour que Dieu puisse atteindre le but qu'il s'est fixé. Peut-être que ce matin, mon frère, ma sœur, tu es dans une situation où l'épreuve, eh bien, te paraît intenable. Mais je puis te dire de la part du Seigneur ce matin, que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Regardez bien comment la parole est mentionnée. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Mais entre le temps où la piété fait son œuvre et le début de l'épreuve, mais Dieu poursuit un dessein. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'il peut enlever en moi des choses qui sont comme des tares, qui bloquent, qui me retardent, qui me freinent. Jusqu'au moment où progressivement, bien, il enlève, car Dieu ne peut jamais ajouter quelque chose de lui sur ce qui est mauvais en moi. Il faut qu'il enlève ce qui est mauvais en moi d'abord. Et après, il va rajouter ce qui est de lui. Suis disposé ce matin à le laisser faire? Oh, je peux dire Amen. Oui, je peux crier Amen. Oui, mais dire Amen parce que le pasteur pose la question, c'est une chose. Mais le vivre, c'est autre chose. Dans ce cadre-là, frères et sœurs en Christ, il y a quelqu'un qui sonde les cœurs. Hein, c'est pas moi. Il connaît nos vies ce matin. Et s'il parle de cette manière, c'est parce qu'il voit que quelquefois, lorsque certaines épreuves qu'il permet dans nos vies pour continuer son œuvre de nous affermir, eh bien, cela produit en nous quelquefois des réactions qui peuvent se révéler surprenantes. Parce que nous avons d'autres considérations que Dieu. Alors regardez avec moi, pour continuer, comment, pour commencer, l'éducation de Joseph va prendre son effet dans Genèse 37. Genèse 37, verset 2. Là, nous sommes sur le début d'un plan que Dieu a préparé et qui va commencer à développer pour pouvoir former Joseph jusqu'à ce que Monsieur Pharaon, après que Joseph soit passé par diverses étapes, permis, dirigé, conduite par la main de Dieu, Monsieur Pharaon a fait un constat. Et celui-ci, trouverons-nous un homme comme Joseph, ayant en lui l'esprit des dieux. Alléluia. Et puis, sachant expliquer les songes, enfin, il va faire toute une série de déclarations qui n'est pas autre chose que le résultat produit par le travail accompli par le Seigneur dans la vie de celui qui voulait former pour être utile dans sa main. Tu veux être utile dans la main de Jésus ce matin? Tu veux être utile à l'avancement du royaume de Dieu? Tu veux être utile pour le service pour Christ? Alors, il faut que Dieu te forme. Il y a plus d'amen, là. Dieu a exposé devant nous ce matin les bénédictions qui ont été données à Joseph. Mais je vous ai dit que derrière ce mot Joseph, il y a la double déclaration faite par Rachel. Dieu enlève et Dieu ajoute. Alors comment Dieu va s'y prendre pour pouvoir travailler? Alors regardez avec moi une parole qui nous est donnée. Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leur... Bon. Donc Joseph avait une fâcheuse tendance à rapporter les mauvais propos de ses frères à son père, Jacob. Mais c'est pas autant ce que je veux vous amener à considérer. Certes, on peut le considérer. Mais regardez avec moi ce qui est mentionné dans le verset 2. Voici, quoi? La postérité de Jacob. Or, quand je lis voici la postérité de Jacob, il eût fallu que je lise en premier Ruben. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être plus, Dieu m'avait donné à prendre avec l'Église, à partir des 12 fils de Jacob, les 12 fils de Jacob et les bénédictions spirituelles adaptées à l'Église. Ça, il y a un petit moment. Mais quand nous avons vu Ruben, nous avons compris que dans le sens étymologique, Ruben, premier fils de Jacob, Ruben signifie littéralement « voyez un fils ». Et dans la bénédiction prophétique, quand je dis Ruben, « voyez un fils », c'est pas Ruben que je vois, Ruben est mort. Mais je vois derrière cette expression « voyez un fils », je vois Jésus à la droite du Père, ressuscité, glorifié, intronisé, intercédant auprès du Père, et revenant chercher ceux qui l'attendent pour leur salut.
Mais là, nous voyons que derrière ce qui est mentionné, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux de son père. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? Sur le plan humain, il ne nomme pas Ruben le premier-né, mais il met en évidence Joseph, celui en qui il va travailler particulièrement. Gloire à Dieu. Celui en qui il y a des choses à enlever pour des choses à ajouter. Un peu comme nous ce matin. Et puis, pour mettre en évidence ce qu'il était sur le plan humain, comment on pourrait le définir, un rapporteur. Celui qui prenait les propos de ses frères et qui allait vers le père pour dire, papa, tu sais, non, tu parles trop. C'est le propre de la vieille nature. Constamment répandre ce qui ne doit pas être répandu. Enfin, vous me direz, il était jeune, mais c'est pas pour ça, parce qu'il avait cette tare en lui, que le plan de Dieu s'est arrêté. Mais Dieu va travailler pour enlever ça. Regardez la suite. Verset 3. Israël aimait Joseph. Dites avec moi. Plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et voici que cet amour dont il était question, Joseph était question de la part de son père, la Bible nous montre un détail, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Bon, alors, quand je regarde Joseph habillé d'une tunique de plusieurs couleurs, je pourrais considérer cela sur un plan humain. Et rapidement, j'arriverai, puisque la suite nous montre que ses frères l'ont pris en jalousie. Sur un plan humain, vêtements des privilèges. Vêtements des préférences. Et je pourrais même aller à penser que cette attitude consisterait à mettre sur le dos de Jacob ce que je pourrais définir comme une faute d'éducation. Mais ça, c'est ma pensée qui pourrait m'amener sur ce terrain-là. Mais quand je regarde un peu plus haut et que le Saint-Esprit m'arrête, m'éclaire, alors je mets ce paramètre de côté. Je discerne derrière ce vêtement de plusieurs couleurs le plan de Dieu. Son action dans une sagesse infiniment variée, il va désormais être mis en place dans la vie de son serviteur Joseph, à l'âge de 17 ans, pour commencer à permettre qu'il passe plusieurs étapes, où cette formation va lui donner, en quelque sorte, ce que j'ai noté, formation pour une acquisition. N'oubliez pas, au départ, Dieu enlève, mais Dieu ajoute. Ce que Dieu enlève, je ne l'ai plus. Mais ce qu'il ajoute, c'est une acquisition, possession. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Il est au milieu de nous ce matin. Frères et sœurs en Christ, le Maître est là. Le Maître est là et il te demande ce matin. Il a besoin de te parler, il a besoin de t'enseigner. Il a besoin de t'exhorter, il a besoin de te soutenir, il a besoin de te fortifier. Il a besoin que tu comprennes son plan, son dessein, son œuvre, d'enlever ce qui déplaît à Dieu pour ajouter ce qui lui plaît. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, frères et sœurs en Christ, si nous regardons ce vêtement avec le regard humain, nous pouvons discerner sur le plan divin une tunique de plusieurs couleurs. Et
je me suis laissé aller à penser comment Jacob, non, pas Jacob, Israël. C'est pas Jacob, c'est Israël. Et quand nous prenons les deux paramètres, Jacob nous parle de ce qui est humain. Mais quand je prends le mot Israël, je vois qu'il y a l'aspect divin, le travail de Dieu. Et c'est Israël qui manifeste l'amour pour Joseph et qui montre cet amour en lui faisant un vêtement de plusieurs couleurs. Alors, je suis allé un peu plus loin dans ma réflexion pour voir comment ce vêtement de plusieurs couleurs était fabriqué. Donc, il a fallu quand même un certain temps pour confectionner le vêtement. Plusieurs couleurs, il fallait plusieurs étoffes qui devaient être mises sur un tissu premier, puis plusieurs fois mettre ce morceau-là par là. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail de patience. Et au lieu de voir le vêtement des privilèges, le plan spirituel, voyons non seulement la sagesse infiniment variée de Dieu qui fait concourir tout à l'accomplissement de son dessein pour nos vies, mais voyons aussi sa patience, la patience de Dieu. Travail de patience pour pouvoir, dans ce qu'il a commencé, quelquefois se mettre à notre rythme. Dieu ne va jamais plus vite que ce qu'il veut réaliser. Quelquefois, nous sommes lents à comprendre. Alors, Dieu patiente avec nous. Moi, je suis un père de famille et il m'est arrivé de dire à mes enfants, si tu continues, la patience va me manquer, hein? Mais oui, quelquefois, nous manquons de patience. Et quand la patience me manque, mais quelquefois, je sors la ceinture et je dis, ça suffit. Mais quand la patience de Dieu pourrait un temps soit peu arriver, alors il y a quelque chose qui est plus grand que sa patience, qui prend le relais, c'est sa longanimité. Heureusement que Dieu n'est pas comme les hommes. Hein. Quelquefois, une fois que ça ne va pas comme on veut, on est prêt à tout casser, tout briser. Mais notre Père Céleste, par son serviteur, l'apôtre Paul, dit, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Peut-être que ce que nous partageons ce matin, dans d'autres circonstances, Dieu nous l'a déjà dit. Hein? Alors pourquoi revient-il ce matin pour nous dire la même chose? Il patiente à notre égard, parce qu'il veut le meilleur pour nous-mêmes, et dans son plan béni, il ne veut qu'aucun périsse, et que tous arrivent à la repentance. Gloire à Dieu, c'est pourquoi on peut le bénir ce matin. C'est un Père miséricordieux, un Père rempli de compassion. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans la vieillesse. Et n'allez pas croire que derrière ce mot vieillesse, nous sommes devant un vieillard un peu gaga qui fait un peu n'importe quoi. Non, c'est pas Jacob, c'est Ismaël, Israël. Ça veut dire Dieu va élever le niveau parce qu'il met Joseph à une place, mais toute la vie de Joseph sera conduit par la main de Dieu, et c'est le spirituel qui va dominer tout ce qui est humain. Amen. Gloire à Dieu. Allons plus loin. Savez-vous, frères et sœurs en Christ, que cette tunique bigarrée, dans les temps futurs, est entrée dans la vie du peuple de Dieu, et dans 2 Samuel 13, verset 18, il nous a montré que la tunique de plusieurs couleurs, c'était ce que revêtaient les filles du roi. Mais les filles du roi, revêtant cette tunique de plusieurs couleurs, elles montraient par là qu'elles étaient vierges. Donc c'est pas rien. C'est pas une faute d'éducation. Ce n'est pas un vêtement de privilège, mais c'est quelque chose que Dieu veut marquer. Dieu veut marquer pour démarquer. Alléluia. Et puis, même pour rapporter cela aujourd'hui,
Car ses frères voyaient sur lui ce vêtement.
Dans l'aspect spirituel,
nous pourrions la comparer plutôt à l'onction de Dieu sur ta vie. Car l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un, ça peut prendre plusieurs formes. Il n'y a pas une onction stéréotypée. Le Saint-Esprit agit dans l'un, agit différemment dans l'autre. Ça nous empêche de nous comparer, de nous jalouser, de nous envier. Le Seigneur fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il le veut et quand il le veut. C'est à lui la gloire ce matin.
Alléluia.
Oui, nous sommes là pour le glorifier. Je donne gloire.
Alléluia.
Je donne gloire à l'agneau ce matin. Il est au milieu de nous.
Pas venu pour faire de la figuration. Pas venu pour me montrer. Je suis venu ce matin pour que Christ soit vu en moi.
Et quand Christ est vu en moi, je reste à ma place. Petit à mes yeux, réalisant qu'en moi il n'y a rien de bon. Mais dans le plan béni, c'est Dieu qui a bien voulu mettre son esprit dans ce vase de terre. Nous portons ce trésor dans une vase de... afin que cette grande puissance soit attribuée non pas à nous, mais à celui qui est le possesseur, à Dieu. Merci Seigneur. Donc sur le plan humain, on a vu que ses frères, verset 4, virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine, et il ne pouvait lui parler avec amitié. Et puis la suite du récit nous montre que Joseph a eu un songe, mais le songe qu'il a eu lorsqu'il l'a rapporté à ses frères, cela n'a pas permis aux frères de se joindre à lui pour dire amen.
Non.
Dieu commençait déjà à le démarquer. Quand Dieu commence à vous démarquer, ça va susciter de la jalousie. Mais il faut que vous soyez capable de le supporter. Vous ne croyez pas que le Seigneur nous amène sur un terrain particulier ce matin? Et en nous parlant de la sorte, il met en évidence notre nature humaine avec ses tares, ses manquements, son mode de fonctionnement, mais il met en évidence aussi ce que le Saint-Esprit est capable d'amener dans nos cœurs, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Et quand le Saint-Esprit travaille dans quelqu'un, celui en qui le Saint-Esprit travaille, Dieu va le mener toujours être petit à ses yeux. Pourquoi? Parce que Dieu va l'éclairer par l'intelligence renouvelée pour comprendre que ces choses ne viennent pas de toi, mais elles viennent de celui qui veut bien t'utiliser. Des fois, nous aurions tendance à penser que nous sommes meilleurs que les autres, que nous sommes ceci, que nous sommes cela. N'oublions pas que celui dont il est question, nous avons lu les bénédictions spirituelles de Dieu sur sa vie. Et c'est pas rien, frère et sœur en Christ. Mais regardez avec moi. Par exemple, dans Genèse, le chapitre 39. Genèse 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. Descend en Égypte, mais il n'est pas allé en Égypte faire du tourisme. Il n'est pas allé pour découvrir les pyramides. Il n'est pas allé pour pouvoir bien voir le Nil. C'est bien l'Égypte, le Nil, hein? Je ne suis pas trompé, hein? Bon, je ne suis pas encore allé en Égypte, mais bon, j'ai un petit peu de connaissances, etc. Mais il est allé en Égypte, on l'a fait descendre en Égypte après qu'il eût été vendu. En Égypte, et Potiphar, voilà un personnage qui arrive, officier de Pharaon, chef des gardes, personnage influent dans le royaume d'Égypte, égyptien, l'acheta à des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Donc Joseph est victime d'une vente.
Il est vendu. Il n'est pas vendu pour être prince.
Il est vendu comme esclave.
Comment ça, pasteur gentil? Vous avez fait lire au départ que Dieu l'a béni, etc. Et voici qu'il est vendu comme esclave. Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction-là?
Ben oui. Ça peut me faire réagir dans ma nature humaine. Mais, quoi que je puisse penser, il est dans le plan de Dieu. Et Dieu va utiliser ce moyen-là comme un tremplin de formation. Je vous ai dit que quand Dieu travaille, il a des choses qu'il enlève pour me donner des acquisitions. Alors, qu'est-ce qu'il va acquérir dans la maison de Potiphar? Eh bien, lisez avec moi la suite du récit.
Donc, il est vendu. Et le verset 2 nous montre que quoi qu'il soit vendu, lisez avec moi, l'Éternel fut avec lui. Alors, si l'Éternel est avec moi, pourquoi n'a-t-il pas empêché que ce soit vendu?
Parce qu'il était compris dans son dessein, dans son plan, cette vente. Dieu la contrôlait, la maîtrisait. Même si, oui, que Dieu soit béni, ma sœur, oui. Même si ça me semble étrange, il n'y a rien d'étrange dans ce que Dieu fait. Parce que tout ce qu'il fait, il l'a préparé à l'avance. Nous avons lu les antiques montagnes et les collines séculaires dans la manière que les bénédictions ont été annoncées. Ça veut dire que Dieu a préparé les choses d'avance et il va diriger d'après un temps qu'il maîtrise, une manière de faire qui échappe quelquefois à l'esprit le plus éclairé et qui découle de cette réalité que ses voix ne sont pas mes voix, ni ses pensées mes pensées. Mais l'important, c'est que je comprenne et que je le laisse faire. Seigneur, je ne comprends pas toujours, Seigneur, mais je te fais confiance. Allons plus loin.
L'Éternel fut avec lui et là, la prospérité l'accompagna. Alléluia! Il est vendu comme esclave. Il arrive dans un pays étranger. Potiphar, son maître, l'achète.
Mais Dieu n'est jamais très loin. Parce que Dieu est le maître d'œuvre.
L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et là, le témoignage nous rapporte ceci, verset 3. Son maître vit. Son maître remarqua. Son maître comprit. Quoi?
Ah, que l'Éternel était avec lui. Mais c'est pas tout. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains.
Alléluia. Moi, je m'assieds. Ah, et je savoure ce que je viens de lire.
Il est vendu. Il est esclave. Dans un pays étranger. Il ne maîtrise rien. Mais Dieu maîtrise tout. Au travers de lui et pour lui. Et par lui. La bénédiction l'accompagne.
Mon frère, ma sœur, tu as peut-être un voisin de palier. Tu as peut-être un collègue de travail. Tu as peut-être tes parents.
Alors, la question que je pourrais te poser ce matin,
est-ce que dans ta famille, ton voisin de palier, ton collègue de travail, comme Joseph, voit que Dieu est avec toi et que Dieu te bénit?
Ah, nous sommes sur le terrain du témoignage.
Dans ce cadre-là, chacun a une conscience dans laquelle Dieu met sa pensée.
Je ne peux pas répondre à ta place. Je peux répondre pour moi. Alors, chacun connaît son cheminement. Mais dans le plan de Dieu pour Joseph, nous sommes obligés de constater que la maison là où il a été vendu comme esclave, le maître de la maison a vu. Non seulement que Joseph était démarqué de tous les serviteurs qu'il avait eus avant, c'était quelque chose de particulier. Il était marqué de l'empreinte de Dieu, autant dans sa personne que dans son travail. Son maître vit que l'Éternel versait toi était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Alléluia.
Et laissez-moi vous dire que quand le Seigneur dit tout ce qu'il entreprenait, je ne peux pas dissocier ni enlever quoi que ce soit, c'est tout ce qu'il entreprenait. Tout ce que Joseph touchait, on dit quelquefois que tout ce qu'il touche se transforme en or. Certaines personnes qui ont des capacités particulières, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas transformé en or, c'est la main de Dieu qui travaillait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, et l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc Joseph devient dans sa maison un gérant béni. Un gérant béni, et derrière ce gérant béni, eh bien, le travail de Dieu consiste à donner à Joseph, même s'il est esclave, la capacité d'acquérir, eh bien, la possibilité de diriger une maison, parce qu'il est en route pour diriger un royaume. Tu veux diriger une église? Tu as à cœur de servir Dieu en dirigeant son église? D'accord, oui, tu peux. C'est bien d'avoir ce désir. Mais commence déjà par diriger ta maison. Alors, si tu ne sais pas diriger ta maison, comment tu vas diriger l'église de Dieu? Certains peuvent penser que servir le Seigneur ou être sous l'estrade, c'est un honneur, c'est une gloire. Mais, ça, vous pouvez le penser. C'est l'aspect visible de l'iceberg. Mais il y a tout le côté caché que les yeux ne voient pas, mais que Dieu voit. Et quelquefois, ce sont des moments particuliers en sa présence. Les genoux par terre. Dans l'attente, dans la supplication. Quelquefois, des choses qu'on ne peut même pas répéter en public. On y est confronté et on supplie le Seigneur d'agir pour pouvoir manifester sa grâce et donner son secours. Des situations où vraiment on se demande comment quelqu'un a pu tomber si bas, qui cause la souffrance et qui nous donne à nous investir dans le combat spirituel. Jusqu'à ce que nous voyons l'étau se desserrer. Et que comme le psalmiste le dit dans le psaume 57, au verset 2, je crois, « Je crie au Dieu très haut qui agit en ma faveur. Il enverra du ciel le salut. » Tandis que mon persécuteur se pourfend en outrage, il enverra sa bonté, sa fidélité. On conclut la pensée? Quand tel je suis parti, là je suis parti, mais c'est demain matin. Non. Il y a un temps pour tout. Je vous ai dit que nous allons aller au rythme que Dieu permet. Nous allons conclure cette première pensée pour voir comment celui qui a été vendu comme esclave dans l'éducation divine, dans le travail de Dieu, verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de son maître, pardon, qu'il employa à son service. Il établit sous sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, dites avec moi. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, alors l'Éternel rentre. L'Éternel rentre en jeu, l'Éternel agit. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Mais comment? Ah, à cause de Joseph.
À cause de Joseph, Dieu bénit la maison de l'Égyptien. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartient. Appartient à qui? À Potiphar. C'est pas appartenant à Joseph. Joseph n'avait rien. Il n'avait rien, mais il avait tout. Parce que Dieu était avec lui. Mais oui, il avait rien. Il est dans une maison comme esclave. Il n'a rien. Tout ce qu'il touche est béni par la main de Dieu. À cause de lui. Allons plus loin pour conclure. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartient, soit à la maison, soit aussi dans les champs. Trouverons-nous un homme comme cet homme, appelé Joseph, celui en qui Dieu travaille, Dieu enlève et Dieu ajoute. Et plus tard, lorsque Joseph aura deux enfants, Éliakim, Manassé et Éphraïm, c'est le même principe qui va s'accomplir dans les enfants. Cette parole a traversé les siècles, elle est arrivée aujourd'hui à nous. Et Dieu va l'utiliser ou continuer à l'utiliser pour son travail dans nos vies comme notre Père. Amen. On ferme le volet, le premier volet. Et si Dieu le permet, dimanche prochain, si Dieu le veut, nous allons rouvrir un deuxième volet. Amen. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur.